France Inter.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Pour ce premier jour de l'année 2023, je suis dans les choux.
Ma bonne résolution 2023, c'est de ne boire plus que de l'eau. Ah, je blague, c'est la résolution la plus courte de l'histoire des résolutions.
Je vous donne trois indices. Jambon, Brest, beurre.
Et si plutôt que de répéter qu'il faut que tout change pour que rien ne change, eh bien si tout changeait vraiment.
Aujourd'hui, on va cuisiner un fruit qui normalement se fait torréfier. On va le transformer en crème et en moelleux.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster en ce 1er janvier 2023. Laissez-moi vous souhaiter, chères chroniqueuses et chroniqueurs, chères auditrices et auditeurs, une chaleureuse et savoureuse année. Nous sommes bien en 2023, mais nous allons garder un petit orteil en 2022, le temps d'une émission pour dresser notre bilan gourmand de l'année qui s'achève, avec les bonnes nouvelles qui ont émoustillé la scène gastronomique, les bonnes adresses, des bouteilles coup de cœur, des lectures nourrissantes, des recettes aux petits oignons. On vous sert sur un plateau le plus croustillant de 2022. Un grand medzé de bonnes infos, de bonnes ondes et de bonne humeur, réalisé par Laurent Thomas avec Maxime Goudard à la technique et préparé par Fabrice Rivaud. Retrouvez tous les contenus de l'émission, infos, recettes, podcasts sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Chers amis, histoire de réveiller vos papilles, peut-être engourdies par vos agapes de fin d'année, je vous propose une petite dégustation décapante, dégustation à l'aveugle évidemment. Alors attention, vous avez chacun sous votre micro un pot mystère. Chaque pot contient une potion différente. Je vais d'abord vous demander d'ouvrir ces pots. Autant de pots différents, hein. Attention à vos cuillères, messieurs et mesdames, pour me dire ce que vous en pensez. Tout cela est à l'aveugle. L'efficacité de vos palais est en jeu. On va commencer avec Dominique. Dominique Hutin, qui est à peu près rouge comme la bonnette de son micro.
Je pense que si j'allume une cigarette, je vais sauter la maison de la radio. Là. Bah écoutez, il y a un paravent épicé, je vote pour le piment. Et pour ce qui est de derrière, peut-être une note fruitée qui a quand même de l'acidité pour la fraîcheur, mais.
Bravo.
C'est enrichi en larmes aussi parce que je ne suis pas loin.
Vous avez, autant vous le dire, hein, vous avez la potion la plus forte.
C'est du
piment Valero. Vous avez parlé effectivement d'une note fruitée. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin?
Non.
La 2023 est courte, s'il vous plaît.
Alors il faut une bonne mutuelle là, parce que.
Attention, écoutez bien. Piment habanero, purée de coing, ananas séché, citron vert, huile d'olive, sel gris.
Ok.
Manon Fleury.
Alors moi, contrairement à Dominique, je trouve que c'est plutôt assez doux.
Mm-hmm.
J'ai l'impression qu'il y a des herbes séchées.
Mm-hmm.
C'est toujours du piment, hein, ouais. Parce que ça chauffe quand même, mais que c'est mélangé à autre chose. Donc, je dirais plutôt un légume qui adoucit. Peut-être aussi des fruits secs, la noisette peut-être.
On n'est pas loin, noix de cajou.
Ouais.
Manon, est-ce que vous pouvez enlever le post-it qu'il y a sur le couvercle du pot et nous indiquer les ingrédients de cette potion ?
Piment goria.
Oui. C'est pas si fort, hein, bien sûr.
Noix de cajou, cassis, cacao et sel gris.
Bon, pas d'additifs, hein, évidemment. C'est non. Que du naturel et votre potion s'appelle Criollo.
Criollo, ouais.
Sachant que j'ai oublié de donner le nom de la potion de Dominique, ça s'appelle Ouille. Éric Morin.
Alors c'est fort hein, quand même. Oui. Merci de m'avoir donné la parole au bout d'une minute parce qu'il fallait bien ça pour respirer. Non, je l'ai mangé en apnée. Il y a de la tomate,
bravo.
Il y a de l'aubergine,
bravo.
Et après, apparemment les autres ont aussi plein d'autres ingrédients, mais
du piment.
Oui, il y a du piment.
Bien joué. Vous nous lisez la composition, sachant que votre potion s'appelle Fatale.
Ah oui.
Adieu.
Donc piment goria. Tomate, mangue séchée, vinaigre de mangue, gingembre frais, jus de passion, poudre de gingembre, sauvage et curcuma, sel gris.
Très bien. Laurent Delmas.
Je sais pas, la mienne doit s'appeler aïe 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 hein, par rapport à celle de Dominique. Non, j'ai du mal. Franchement, je dirais tomate, poivron.
Bravo.
Mais après, je sèche.
Ben, vous séchez comme les raisins secs qui sont dans votre composition.
Ah, remarquez, ça s'appelle, merci, Capone. Hein. Capone.
Ça s'appelle Capone.
Ouais, Capone.
Parce
ouais.
que c'est du piment de Sicile.
Ah, oui.
Et il y a également de l'huile d'olive, de la poudre d'orange sanguine et du sel.
C'est délicieux.
Elvira.
Ah, je sais pas, mais c'est balèze en tout cas. C'est que ça, ça déboîte. Il y a une petite touche un peu acidulée ou fruitée, mais j'ai du mal à dire de quoi il s'agit.
Ouais.
Ça, surtout, hein, ça emporte le palais, mais sans être. Moi, c'est pas violent, hein, ça va.
Ça va ? Vous aimez ou pas ?
Ouais, c'est très bon.
Bon.
C'est pas le poison qui tue, c'est la posologie, c'est la dose.
Super bon.
On va bientôt savoir ce qu'il y a dans votre pot,
je soulève,
justement.
Non,
il y a un point commun entre tous ces condiments sucrés et salés, c'est le piment, vous l'aurez compris, ou plutôt les piments, dont certains sont cultivés en Bretagne, la plupart même. Ils viennent mettre le feu dans ces préparations culinaires au nom assez rigolo, avec des graphismes plutôt réjouissants. Et vous savez qui signe ces créations décapantes ?
C'est Chris, l'arsouille.
Bravo, Dominique Hutin. Christophe Gaucher, qu'on a connu en taulier légendaire de l'arsouille à Rennes, un bistrot à vin nature qui a marqué pendant 17 ans la scène bistronomique française. Et Christophe met du piment dans sa nouvelle vie avec ses conserves pleines de verve. Je lui ai tendu le micro en Bretagne.
Alors l'idée, c'est... moi, j'adore boire du vin, forcément, parce que ça s'appelle les vins conserves. Et c'est de pouvoir... utiliser le piment et de pouvoir continuer à boire du vin et même manger des plats et que en fait on ça brûle pas quoi, ce soit pas désagréable. Alors c'est intéressant, c'est le voilà, c'est ça, c'est le petit bruit. On aurait pu appeler ça Spock, le nom de la conserverie. Donc il y a du un peu de relief, voilà, il y a du fruit et que ça donne le sourire quoi. C'est pas le piment qui fait peur en général. Ah non, je goûte pas, je supporte pas. Et du coup, je leur dis bah goûtez quand même, enfin essayez. Après, y a des gens qui disent « moi j'aime pas le piment, j'arrive à manger ce que tu fais ». Donc c'est plutôt une belle histoire. Quoi.
C'est quoi la petite histoire de l'abadie ?
C'est juste dire que c'est bon comme l'abadie. Quoi. C'est un peu le, tout est un sens, je sais pas, peut-être mes origines aussi du Maghreb. Quoi.
Ça se compose de quoi l'abadie ?
Principalement c'est 95% de piment Goria. En cuisson très longue, on est sur plus de 50 heures avec de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, que je récupère après, donc que j'utilise pour faire une huile de piment. Une fois la recette établie plus ou moins, donc j'intègre des figues séchées, de l'ail confit. Alors j'ai un peu d'ail noir, un peu d'ail frit, un peu d'ail frais, de la tomate qu'on récupère énormément en période de août où justement tous les maraîchers se retrouvent avec énormément de tomates à ce moment-là, qu'on fait réduire un peu en mode ketchup. Si les piments sont très puissants, donc on en rajoutera plus de tomates plus ou moins, voilà. Puis on peut l'utiliser enfin sur plein de choses, quoi, plein de recettes, ou même sur une cuisine des fois qui est un peu triste, vous mettez une demi-cuillère à café et il se passe quelque chose, quoi.
La conserve, l'abadie, voilà, vous avez la réponse de la composition, Elvira, avec des figues séchées. Pas évident de...
Il y a quand même 95% de piment, si j'ai bien entendu.
Mais ça va, c'est acceptable.
C'est tout à fait acceptable,
c'est très
bon.
Ça reste pas grand-chose pour le reste.
Bah, ça fait 5% de tomates, poivrons rouges, figues, ail confit, huile d'olive.
J'ai juste décimé la moitié des chroniqueurs du plateau.
C'est ça, c'était fait pour ça. Les condiments pimentés de Christophe Gaucher, fondateur donc de cette micro-conserverie artisanale. Les vins conservent à Rennes, on est en Ille-et-Vilaine, pour condimenter et booster votre cuisine du quotidien. Tous les points de vente sur franceinter.fr, à la page on va déguster dans un instant. On retrouve Laurent Delmas et sa chronique Ciné-Cuisine. Mais je vous propose juste avant un petit voyage musical au Mali. Bon appétit sur France Inter.
L'artiste malienne Fatoumata Diawara avec le titre Ensera, coécrit et coproduit avec Damon Albarn. On va déguster, dresse le bilan gourmand de 2022. Nous sommes en compagnie de notre monsieur cinéma de France Inter, Laurent Delma. Je rappelle que vous êtes en duo avec Christine Masson tous les samedis matins à 10h dans On aura tout vu, cher Laurent. Paris a-t-elle de l'appétit au cinéma? Eh bien, vous nous donnez la réponse.
France Inter.
3, 4. Allez-y.
On va déguster.
J'ai l'honneur de faire partie de la belle équipe qui a rédigé un gros livre qui vient de sortir aux éditions Marabout. Titre, on va déguster l'encyclopédie guide qui dévore la capitale à pleines dents, le tout sous la direction d'un certain Gaudry François Régis. J'ai donc eu envie de revenir sur la façon dont le cinéma évoque ce Paris gourmand. Eh ben, les dialogues de Michel Audiard n'en finissent pas d'évoquer Paris, par exemple ses quartiers, ses restos et autres plats canailles, avec en tête de gondole favorite le patron de bistrot, accent parigo obligatoire comme Robert Dalban dans Un idiot à Paris, qui résume son personnage en trois mots définitifs.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais.
Et voilà. Elle est mythique celle-là.
Et voilà, évidemment. Et toujours dans la langue d'Audiard, à quoi peuvent bien rêver quatre troufions français plus un Allemand en 1942 au fin fond du désert de Tobrouk, en pleine Libye? À Paname, évidemment, il y a ces bonnes petites adresses. Le Paris gourmand les met en verve, même si Lino, la grande gueule, ne partage pas leur nostalgie. Comme bien souvent au cinéma, le resto parisien, gargote ou gastro, fait office d'inaccessible étoile. On se raconte le menu, on se refile des adresses, on compare les souvenirs. Paris dans les films, c'est d'abord un festin de paroles.
J'ai habité 2 ans, c'était universitaire en face du parc Montsouris.
Rive gauche en dehors du Veldiv, c'est que dalle.
Le soir, souvent, je descendais dîner rue Monsieur le Prince.
C'est le chinois?
Chez Adèle.
Ben. Vous allez pas nous déballer toute votre carte postale, non? Couplet sur Paris, il y a 2 ans qu'on en croque. Ça revient comme du chou. Les petits bistrots pas chers, les grands billes du samedi, la place du Tertre, le toit du pont de l'Allemagne. Et dans 5 minutes, il y en a un qui va sortir un ticket de métro ou des photos de l'affaire du trône. Non, pour moi, tout ça, c'est râpé. Il y a plus de Paris, il y a grosse Paris, un point, c'est merde.
Seriez-vous insensible à la nostalgie, brigadier Dudu?
Non, mais j'aime pas penser à reculons, je laisse ça au lop et aux écrevisses.
Excellent.
Et s'il y a bien un lieu emblématique de Paris au cinéma, François Régis, c'est bien la brasserie, qu'elle soit du quartier ou des grands boulevards, peu importe. Les cinéastes adorent capter cette ambiance virevoltante où des serveurs en noir et blanc se comportent comme des danseurs de ballet. C'est un mouvement permanent mais qui trouve ses limites quand on est de retour en cuisine, attention. Là, plus question de jouer la comédie du service canaille, mais en jouer. Face aux cuistots qui les méprisent, les loufias se rebiffent. Résultat, dans Garçon de Claude Sauté, par exemple, Jean-Loup Dabadie a imaginé ce dialogue au sommet entre le chef et l'un des serveurs, sa barde et sa chauffe.
Chef à suivre, 2 salés, 1 lapro, 1 steak couteau à pointe.
1 seconde, monsieur, 2 persillés vont passer la nuit ici. Merci, monsieur. La dorade des 2 Saint-Jacques, c'est pour qui? C'est pour Gabi, c'est parti. Monsieur Gilbert, vous désirez, cher ami, votre plat du jour, peut-être? Et vous attendez, le voilà.
Ah! Salaud.
Quoi, salaud? Faut changer de métier si t'as les doigts qui glissent.
Putain, elle était brûlante.
Et tu pouvais pas la prendre avec ton litot, tout à l'heure tu me l'as rapporté. Fais 2 retours depuis le début du service. Trop cuite, trop salée, elle arrête pas de me faire chier. Maintenant, il la fout par terre, faut le torcher, c'est moi le salaud. Redis-le.
Ça va, maintenant Francis, arrête.
On t'a pas sonné, toi. Bon, la forestière, là, c'est pour qui?
Ouais. Ça, c'est moi qui arrête, je m'en vais ce soir.
Eh ben, c'est ça, va-t'en, Maloulou, t'as un con en moins, ça prend de la place.
Roger. Je vais là te faire des excuses tout de suite.
À toi, reste à ta place.
Toi aussi, reste à ta place.
Alex, je te signale qu'ici, c'est chez moi, c'est à la cuisine. Bon, vous n'êtes pas au cinéma, là! Allez, enlevez!
Ah là là!
Belle musique de Philippe Sard.
Et le bistrot, vraiment héros récurrent du cinéma de Sauter.
Ah ben clairement. Et alors, en écoutant attentivement cet extrait, François Régis, j'ai découvert un mot typique du vocabulaire de la restauration, le lito, que Bernard Fresson reproche à Jacques Villeray de ne pas utiliser. Ben, c'est la fameuse serviette inamovible hein, sur le, que le serveur a sur son avant-bras. Comme
absolument.
Quoi, quand on va au cinéma, on peut aussi se cultiver.
Accessoire indispensable du garçon.
Exactement. Bon, alors, puisqu'on est le 1er janvier, je referme cette chronique avec un acteur qui chante, François Morel, et qui ce matin encore est pour le moins en situation.
J'ai mal à la tête, lendemain de fête, odeur de cigare et de fumée bizarre. J'ai mal à la tête, lendemain de fête, la prochaine fois, ce sera pas chez moi.
François Morel.
François Morel, bien sûr. Mais oui, qui chante lendemain de fête, on en est tous là.
On en est tous un peu là.
On regarde pas vos têtes, mais enfin bon, on en est tous là. Quoi.
Ça va très bien.
Et je rappelle, merci mon cher Laurent, que vous êtes l'auteur d'un livre qui a sûrement été sous le sapin de tous les cinéphiles. Bertrand Tavernier, Le cinéma et rien d'autre aux éditions Gallimard et France Inter. Dans la continuité d'ailleurs d'une émission d'été que vous avez consacrée au cinéaste, toujours disponible en podcast.
C'est vrai.
Tavernier était, je le rappelle, non pas parisien, mais lyonnais.
Ah bah oui, s'il vous plaît.
Et amateur de bonne chère. Les scènes de table ne manquent pas, évidemment, hein, dans ces films. Seriez-vous, par exemple, cher Laurent, et tout le monde a le droit de jouer, hein, reconnaître le titre du film dont est extraite cette scène?
Deux saucissons chauds et un pot à la trois.
Vous restez à déjeuner? J'ai des écrevisques qui ne viennent pas de Tchécoslovaquie.
J'ai déjà mangé une tartine.
Non, saloperie, ça bourre et ça nourrit pas. On peut déjeuner?
C'est complet.
Ça a l'air bien vide.
Ça a l'air, mais ça l'est pas.
Alors,
c'est complet. Ben c'est Michel Galabru, ouais, qui dit ça, et il est aux côtés de Nathalie Baye dans le merveilleux Une semaine de vacances qui se passe intégralement à Lyon, et il est patron d'un machon,
saucisson chaud,
d'un bouchon lyonnais. Vous avez essayé de me piéger, c'est raté.
Bertrand Tavernier, Le cinéma et rien d'autre, un livre avec des entretiens inédits avec Isabelle Huppert, Philippe Torreton, Nathalie Baye, Thierry Frémaux, Julie Gayet, aux éditions Gallimard et France Inter. Merci, cher Laurent. Allez, on
merci
enchaîne
François
avec.
Régis.
Quelques coups de cœur régalants. On part en Alsace, dans le Haut-Rhin, en compagnie de notre ami Éric Morin.
On a déjà tous entendu dans des émissions culinaires ou lu dans des guides de prendre une huile neutre. Et quand on parlait de neutralité, on disait l'huile de pépins de raisin. Eh bien moi, je vais vous montrer que cette neutralité, elle n'existe pas. Il y a dans cette huile de pépins de raisin que j'ai apportée dans le studio, qui est fabriquée depuis à peine 2 ans par Michel Ramponi, qui est la compagne du grand vigneron alsacien Christian Binaire, qui a eu l'idée de ne plus rien perdre des déchets qui étaient jetés ou qui étaient mis au compost. Elle récupère ainsi 30 tonnes de marc de raisin, donc c'est la matière sèche une fois qu'on a pressé le raisin, provenant de 12 vignerons nature de toute l'Alsace. De ce marc, elle le triture, comme elle dit, et elle en récupère les pépins. Vous voyez la taille d'un pépin de raisin, c'est pas très très gros.
Non.
Elle les presse, elle les laisse reposer pendant une année, et au bout d'un an, il y a les lies, comme les lies L-I-E-S du vin, il y a les lies de l'huile qui se sont formées, et ce qui est au-dessus forme une huile absolument formidable.
Et on l'a, d'espèce d'élixir, dans des bouteilles que vous nous avez apportées.
Voilà, je vous ai apporté parce que elle utilise les cépages différents, elle fait des grands crus alsaciens, le Ristenberg ou le Kafferkopf, pardon. Il faut savoir quand même qu'il faut 30 à 50 kilos de pépins secs pour 1 litre d'huile. Donc on est vraiment sur des masses qui donnent ce nectar. Et on est dans l'ADN du raisin en réalité, parce qu'on est au cœur du pépin qui a donné après le raisin, et on est dans quelque chose qui est totalement inédit et d'une qualité incroyable. Elle est soutenue par des chefs comme Jean-Luc Brindel à Riquewihr, Thomas Graham à Paris, dans un endroit cher à Manon, et c'est du jamais bu.
Thomas Graham, on évoque évidemment le Mermoz dont Manon a occupé les fourneaux pendant pas mal de saisons. Décrivez-nous, Manon, cette huile incroyable. On peut peut-être commencer d'ailleurs par la couleur, qui vraiment n'est pas tellement conforme à l'idée qu'on se fait de l'huile de pépins de raisin.
Bah, on est sur un vert assez intense, on pourrait presque penser que c'est de l'huile d'olive, en fait. Vert pistache, presque. Et après, sur les arômes, c'est incroyable.
C'est d'une gourmandise. Hein, mais...
Le nez est très frais.
Le nectar, c'est vraiment le mot adapté. C'est-à-dire que c'est vraiment enrobant, c'est rond. Il y a un côté presque un peu brioché. Enfin, c'est vraiment fou comme saveur.
Et moi, je trouve qu'il y a un côté très fruité, aussi tend vers le fruit exotique. Donc, moi, ça fait penser au fruit de la passion, presque.
Oui, mais moi, j'avais presque un raisin acidulé. Mais je me dis qu'on a forcément l'impression déformé par l'origine de ces pépins. Dominique.
Non, mais moi, je triche.
Vous qui êtes plus habitué à la pulpe, quand même, qu'au pépin.
Non, mais je la connais déjà. On l'accueille sur un salon de vin naturel à Mulhouse. Donc, on voit très bien. Je souscris entièrement au choix d'Éric parce qu'effectivement, c'est un travail à part. C'est un travail à côté.
Au nez, le raisin, c'est évident, je trouve, hein, quand même. Et mais elle est super concentrée. Donc, il en faut de petites, très petites quantités.
Il en faut effectivement très peu.
Bien sûr.
Et ça renouvelle vraiment la vision qu'on a. Et nous, vraiment, en tant que chef, la vision de l'huile neutre qu'on utilise pour faire infuser des choses dedans. Là, c'est une nouvelle vision de l'huile de pépins de raisin. Et on peut s'en servir pour faire des assaisonnements. C'est incroyable.
Et spontanément, sur quoi, Manon, vous imagineriez?
Sur un... Contrairement à ce que vous pourriez attendre, mais sur du poisson. Là, j'ai envie d'un poisson cru avec quelques gouttes de cette huile-là et quelques gouttes de jus de citron.
Même des Saint-Jacques crus aussi,
ouais. Ouais.
En touche délicate.
Ça s'appelle l'huile Mirala.
Michel Ramponi et Christian Binaire, c'est un projet vraiment incroyable et c'est une très bonne façon de valoriser les déchets de la vigne. Vraiment, bravo pour cette découverte. On est totalement conquis. Toutes les références de ce produit sur franceinter.fr, à la page « On va déguster ». Manon Fleury, petit coup de cœur, chocolaté.
Je vous ai apporté des chocolats aujourd'hui qui ont une drôle de forme, qu'on va faire goûter à notre jeune élève Adèle, c'est ça?
Car nous avons la chance d'accueillir dans notre studio en ce 1er janvier des élèves de 3e d'un peu partout en France. Tu viens d'où, Adèle?
De Marseille.
De Marseille. Est-ce que tu aimes le chocolat?
Oui.
Alors avant même que Manon nous révèle la solution des jeux, est-ce que tu pourrais goûter ce chocolat, ce bonbon chocolat qui est quand même en forme de pyramide?
Est-ce que tu les trouves jolis déjà?
Bah oui, enfin surtout lui, avec les taches blanches.
Effectivement, il y a des taches, nous c'est ce sont des formes de pyramide où il y a des différentes taches de couleurs qui disent à peu près ce qu'il y a à l'intérieur des chocolats. Et ces chocolats, ils viennent d'une nouvelle chocolaterie qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines à Paris sur la célèbre avenue de l'Opéra, au 33 avenue de l'Opéra, par une jeune pâtissière qui s'appelle Jade Genin.
Jade.
Et
oui.
Et non pas Jacques comme son père. Elle a fait son apprentissage chez son père. Et pour connaître Jade depuis plus de 15 ans, elle a une vie antérieure à sa vie de pâtissière puisqu'elle a été avocate avant ça. Moi, je l'ai connue durant ses jeunes années de droit. Et donc Jade s'est reconvertie très récemment. En fait, ça fait que 3 ans qu'elle fait du chocolat et elle a ouvert donc sa boutique il y a quelques semaines avec pour symbole ce chocolat en forme de pyramide qui rappelle évidemment l'obélisque de la Concorde qui n'est pas très loin, mais aussi une Madeleine de Proust quand à 6 ans son père lui a fait découvrir une pyramide en forme de chocolat qui symbolisait la pyramide du Louvre. Il faut savoir que donc Jade s'inscrit dans la lignée de ce qu'a fait son père, que voilà, qu'on connaît tous à Paris, qui est vraiment un des meilleurs chocolatiers et pâtissiers de Paris, mais elle essaie d'apporter de la nouveauté. Donc elle propose des chocolats qui sont entièrement végétaux, sans ajout de beurre, d'œufs, de lait et de crème, ce qui permet d'apporter une texture un peu particulière aussi à ces chocolats et qui différencie selon les chocolats, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne mettait pas les mêmes pourcentages, ça créait des formes un peu différentes au point de vue de ces chocolats. Et ensuite, elle fait aussi des pralinés qui sont tous faits maison, contrairement à beaucoup de chocolatiers, qui contiennent au moins 70% de fruits. Et elle propose aussi des pralinés de céréales pour changer des pralinés qu'on connaît justement à base de fruits secs, avec toutes les allergies qu'on connaît aujourd'hui. Pour remplacer donc ces pralinés à base de gélatineux, elle propose ces pralinés à base de céréales, à base de blé, à base d'avoine, avec des chocolats qui sont en mono-variété, ce qu'elle appelle du tri-tout-bar, voilà.
De l'arbre à la tablette.
Exactement, de l'arbre à la tablette, qui est une nouvelle manière aussi de pâtisser le chocolat.
Waouh. Alors, Adèle, à toi de jouer.
Je goûte.
Ouais.
Lui.
Celui que tu veux. Alors là, c'est celui avec les petites taches blanches.
Est-ce que tu aimes?
Bah oui. Enfin, moi, j'aime tous les chocolats, donc.
Est-ce que tu as identifié un petit univers aromatique?
Non, mais c'est du chocolat noir, enfin déjà.
Mm-hmm. Ouais.
Mais après.
C'est difficile.
Il y a un côté un peu coulant à l'intérieur.
Mm. Oui.
Un peu fondant.
Un peu fondant.
Mais je sais pas.
Alors je sais pas non plus parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la boîte, donc j'ai pas repéré
c'est
tous
le
les
blanc,
chocolats.
Moi je distingue vraiment. Je pense que j'ai eu le même, mais pense qu'on est sur un praliné un peu céréalier. Je le trouve délicieux.
Oui. Et ce qui est drôle, c'est la forme de la pyramide fait qu'il y a des angles et que ça croque.
Et c'est très agréable. C'est très, très agréable. Déguster, ouais.
On a une impression comme ça de
l'ergonomie est super
piquant,
en bouche.
C'est très très bien.
Ça change du bonbon classique parallélépipédique.
Voilà.
Là, on est pyramidal. Non, mais c'est vrai que les angles apportent un effet de texture.
Il faut les obliger de croquer différemment.
Voilà, exactement.
Il y a aussi d'autres propositions en boutique avec des riz soufflés enrobés de chocolat, toujours les marrons glacés qui étaient aussi un des produits phares de son père Jacques Genin. Mmh. Et puis d'autres merveilles à découvrir en boutique.
En boutique avenue de l'Opéra, pas très loin d'un certain Cédric Grolet.
Oui, je crois que le positionnement
le
est assez...
Et si l'avenue de l'Opéra devenait l'avenue de la pâtisserie, sachant que l'Opéra est déjà le nom d'une pâtisserie. Merci beaucoup Adèle d'avoir dégusté pour nous cette petite pyramide chocolatée. Jade Genin qui a troqué sa robe d'avocat pour un tablier de pâtissière. Voilà, bravo, un très très beau travail. Allez, un coup de cœur solidaire avec Elvira Masson.
Alors, on connaît tous maintenant le Refugee Food pour leur festival citoyen qui fait œuvrer ensemble cuisiniers, réfugiés et restaurateurs locaux. Mm-hmm. Ils font aussi de l'aide alimentaire et distribuent des repas pour les personnes précarisées. Cette formidable équipe vient de créer dans le 14e arrondissement de Paris, on est du côté de la Porte de Vanves, la Cantine des Arbustes, un restaurant engagé, ouvert à tout le monde, avec des tarifs différenciés. C'est gratuit quand on bénéficie de l'aide alimentaire. C'est 4 euros pour les résidents du foyer de travailleurs qui est juste au-dessus du restaurant, 8 euros pour les autres. Il y a 50 repas étudiants gratuits proposés chaque jour. La brigade est composée par des cuisiniers et cuisinières en contrat d'insertion qui sont encadrés par Aruna So, talentueux chef formateur. C'est un régal ce qu'on y mange. Aruna So vient de Mauritanie. Il aime toutes les cuisines d'Afrique de l'Ouest, toutes les cuisines du monde entier d'ailleurs. Son mafé aux légumes est légendaire. Son tiep aussi. Il fait des riz comme vous n'en avez jamais goûté. Et en même temps qu'il envoie avec sa brigade les repas pour le restaurant, ils cuisinent jusqu'à 800 repas par jour pour l'aide alimentaire et ils font aussi traiteur par-dessus le marché. Wow. Et le samedi, on y propose, pour aider et pour gagner en autonomie alimentaire pour les plus fragiles, des ateliers gratuits, notamment pour apprendre à cuisiner quand on a juste un tout petit réchaud. C'est au 5 rue des Arbustes dans le 14e, c'est ouvert du lundi au vendredi et c'est absolument génial.
Et ça réouvre dès lundi.
Dès demain.
La cantine des Arbustes, 5 rue des Arbustes dans le 14e arrondissement. Merci beaucoup Elvira. D'étranges mutations opèrent dans les cuves et les tonneaux, des vins, des bières, des cidres. Il y a même des vins qu'on pourrait prendre pour du cidre et inversement, mais que se passe-t-il ? Dominique Hutin lève son verre à cette nouvelle tendance dans les alcools.
On va déguster sur France Inter.
Ce premier jour de janvier, je suis venu vous annoncer, non pas la fin du monde du vin, mais l'avènement d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui s'est construite, alors autant par les tendances de ces derniers mois que par les perspectives qui se dessinent. Car nous sommes en train d'assister, accrochez-vous bien, à un bouleversement du panorama liquide. Et notez bien que j'ai dit cette fois liquide et non pas vin, c'est important pour la suite des événements. Alors avant d'énumérer un petit peu tous les marqueurs qui viennent étayer cette thèse, je vous propose une petite dégustation. J'ai mis dans vos verres quelque chose qui peut-être déjà visuellement vous intriguez.
Avec ses couleurs orange sanguine.
Et c'est l'illustration parfaite du tableau que vous avez dépeint juste avant cette prise de parole. C'est un mix de cidre, de vin et d'alcool de fruits. C'est assez sauvage, c'est pétillant. Ça nous vient de Malmö. C'est l'extrémité sud de la Suède. Vous connaissez ce pays?
Un peu, vaguement.
C'est un joli pays, vous devriez aller. C'est assez. Voilà. Alors, c'est distribué en France. Vous trouverez sur notre site la liste des cavistes. C'est 65% de cidre, 30% de prunes, 5% de vin. Et c'est produit par un collectif délirant qui s'appelle Frukt Stereo.
Frukt Stereo.
Voilà, en suédois, c'est mieux.
Mais refaites-le nous quand même.
Non.
Avec l'accent de Malmö.
Non plus, n'insistez pas, je l'ai dit une fois.
Il est très précis l'accent du sud de la Suède.
C'est justement pour ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais on dirait du bourru, si je puis me permettre.
Ah, il y a ce caractère sauvage.
Le premier jus d'un vin.
Oui, comme ça. C'est très frétillant, c'est frais.
Éric Morin.
Moi, c'est un bonbon, c'est très agréable.
Un bonbon.
Il y a quelque chose de très très gourmand et ça se boit comme ça.
Mais avec une bonne acidité aussi, c'est acidulé, c'est bon.
Je l'ai choisi simplement parce qu'il a une valeur d'étonnement, certainement, mais d'illustration surtout de ce phénomène de mixité entre les différentes boissons. Donc quels sont les marqueurs de ce bouleversement qui va traverser l'univers des boissons ? D'abord, les réchauffements. Par exemple, on sait qu'à l'horizon 2050, à Bordeaux, on aura le climat de Porto. Donc on adapte déjà des nouveaux cépages. Le goût de Bordeaux va donc changer. Et la Champagne n'est pas en reste. Qu'a-t-on d'autre ? Les cépages résistants, qui sont des cépages qui vont nous dispenser de traitements de pesticides. Ce sont des nouveaux cépages. Là encore, des nouveaux territoires du goût. Quoi d'autre ? Des co-fermentations. Vous allez trouver des cidres qui sont faits de pommes, de poires, de coing. D'autres exemples, on a des cidres qui sont houblonnés. Donc ils vont aller sur le terrain de la bière. On a des brasseurs belges qui achètent des lots de cidres pour aller alimenter leur brassin de bière. On a plein de vignerons qui se mettent à faire du cidre. Donc vous voyez, les cartes sont redistribuées. On a quelque chose de tout à fait mouvant qu'on ne connaissait pas ailleurs. Autre marqueur, le géant de la bière Heineken sort une vière. La vière, c'est un mix entre le vin et la bière. Et donc c'est sous sa marque Gallia. Et vous savez que ces gens-là ne se déplacent pas juste pour le plaisir de la poésie. Ils sont...
Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'un géant de la bière se mette dans ces hybridations ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un marqueur vrai de cette tendance. Et ils vont tabler sur cette possibilité. Bon, pour résumer un peu ce magma en fusion, deux mots. Le premier, c'est le décloisonnement. Décloisonnement des communautés de producteurs avec des empreintes procédées entre bière, vin et cidre. Mais aussi décloisonnement des communautés de consommateurs qui sont devenus maintenant très volages et qui s'intéressent alternativement aux différents univers. que sont la bière, le vin, le cidre, et on change. Voilà. Il y a ce décloisonnement. Et puis le deuxième mot-clé, bah, vous le connaissez, c'est la fermentation, cette transformation magique. C'est un phénomène d'ailleurs qui s'est aussi invité en cuisine, chers cuisiniers, chères cuisinières. Vous connaissez la lacto-fermentation. C'est bien un autre marqueur. Donc en conclusion, vous allez devoir repenser tout ce que vous savez du vin, mais n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, c'est une évolution, c'est un changement qui a toujours fait partie du monde viticole. Deux exemples, Syrah Grenache, ce sont des standards des vignobles du Sud aujourd'hui. Au début, ce ne sont que des cépages améliorateurs qui vont venir épauler les cépages historiques et vont finir par prendre leur place. Deuxième chose, les bouchons synthétiques. Vous vous rappelez quand ils sont arrivés, on fronçait les sourcils, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde. Donc il y a eu le temps de la colère, et puis on s'y fait. Le temps de la colère, ben voilà, c'est ce qui reste. En 2023, les Français vont continuer de râler. Et ça, c'est pas prêt de changer.
Oui, c'est ça. Et dites-moi juste, dans ces alcools hybridés, le fait de mélanger, par exemple, de la bière et du vin, on est d'accord que c'est pas une fermentation ensemble.
Tous les procédés existent. Il y en a qui vont faire fermenter séparément trois éléments, les allier après. Tout existe. C'est un espace de liberté, de créativité total. Et en plus, on a ce qu'on appelle des collabs, des collaborations entre des brasseurs qui s'allient à des vignerons. Vous vous rappelez peut-être de Cantillon, ce grand brasseur belge. C'est eux qui ont un peu initié cette réflexion en faisant maturer leur bière dans des fûts de vin.
Et ils portent un nom, ces alcools ? On dit alcool hybridé ?
Vous dites comme vous voulez, le terme est à inventer.
D'accord.
2023, on va accoucher que de ces nouveautés-là, oui.
On compte sur vous, Dominique, pour nous trouver un néologisme. Un grand merci. Luz et de Yakuza avec leur nouveau titre Hiroshima. Bonne année sur France Inter.
Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi. Je ne comprends pas. Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Essayer de te changer, t'as rien à perdre. Pourquoi essayer de mélanger les mauvaises herbes? Les blessures sont des marques qui prouvent qu'on s'est toujours démené. Qu'on avait tout fait pour ne plus jamais être blessé. Alors qu'ils nous laissent nous détruire au nom de nos désirs. Alors qu'ils nous laissent choisir de couler nos navires. Même si ça nous fait souffrir, on finira martyr. Si l'amour s'intensifie, on paye. Petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar.
L'année 2023 d'Elvira sera chou ou ne chouera pas. C'est votre chronique.
Je sais très bien.
On va déguster.
Ça va.
France Inter.
Entrée direct dans le bêtisier.
Je suis en train de me régaler d'une salade, enfin je veux pas divulgacher la chronique d'Elvira, mais dingo.
Je suis en train de lire un très joli roman de l'écrivaine japonaise Areno Inoue, qui s'appelle L'Ode au chou sauté. Il fait partie d'une série de textes d'auteurs japonais réunis dans la collection Le Banquet, que dirige au sein des éditions Piquier l'écrivaine Ryoko Sekiguchi. Des textes dans lesquels la nourriture occupe une place centrale. Alors l'ode au chou sauté, c'est l'histoire de trois femmes, Ikuko, Matsuko et Koko. Elles sont réunies par un lieu qui est leur restaurant, la maison de Koko, dans la banlieue de Tokyo. Ce sont trois femmes anonymes, au destin ordinaire et singulier à la fois. Elles sont âgées d'une soixantaine d'années et elles nous racontent par petites touches ce qui fait la vie, les joies, les peines, les rires, les déceptions, les choses que l'on cache, le quotidien en somme. Et ce qui fait la vie, c'est aussi beaucoup ce qu'on mange dans ce livre. Il est question ici de cuisson du riz, beaucoup de cuisson de riz, de palourdes frites, de pique-nique sous un cerisier en fleurs, de usaku. Vous savez ce que c'est usaku ?
Usaku.
C'est le mariage de l'anguille chaude et des concombres vinaigrés froids.
Wow. Ben oui.
Il est question aussi de patate douce avec laquelle on confectionne, tiens, cette circonstance, un tampon pour imprimer un motif sur des cartes de vœux. Il est également question de chou sauté, qui fait l'objet d'un chapitre et d'un débat entre les trois femmes. Ikuko le préfère sauté au beurre avec une rasade de shoyu, Matsuko à la sauce barbecue sucrée et Koko tout simplement au sel, à la manière de son mari, qui lui avait préparé en pleine nuit, la nuit de leur mariage, ce chou sauté au beurre, ail, sel et beaucoup de poivre, alors qu'elle n'avait rien pu avaler pendant le dîner où elle était tellement stressée. Plus tard, dans le livre, Areno Inoue fera dire ceci à Koko. Quelle chance d'aimer manger, quelle chance d'être vivante, parce que même dans les pires moments, dans les pires souffrances, il faut bien manger tout de même. Et pour manger quelque chose, il faut bien se bouger un peu. Alors je me suis bougée un peu. Alors pas de chou sauté, mais du chou quand même. Après les fêtes, j'ai pensé à vos estomacs et vos organismes un petit peu sollicités par la surabondance de protéines. Longtemps, moi, j'ai pas trop su quoi faire du chou kale. Alors qu'il suffit en fait de le blanchir. J'essayais un peu de le cuire à la vapeur.
Mais il vous agaçait même un peu ce chou
kale. M'agaçait un peu le chou kale. Je trouvais qu'on le servait un peu en chips partout. Et finalement, en fait, en le blanchissant et en l'associant avec, il faut quand même une sauce qui envoie un peu. Et je l'ai associé là du chou de Bruxelles que j'adore cuit, mais cette fois il est cru, il est émincé finement à la mandoline. Et j'ai mis des amandes concassées, des quartiers d'orange, enfin des suprêmes d'orange pelés à vif, du zeste d'orange. Comme vert et orange c'est joli, j'ai ajouté un peu de Shropshire, ce fromage anglais. Bleu anglais dont la couleur est donc bleue du fait de son persillage, mais également orange. Et tout est un peu quand même dans l'assaisonnement. Il y a du jus d'orange que j'ai fait revenir un petit peu à la casserole.
Réduire.
Réduire. Un peu de vinaigre de cidre, un peu de sauce tamari, un peu d'huile de noix, un peu d'huile de colza. Ça, j'y pense encore à vous, pour les oméga 3. Mais un peu d'huile de pépins de raisin apportée par Eric, ça aurait été très bien aussi.
Ça a l'air bon, François. Nous, on l'a pas. Mais on
vous dérange,
quoi. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, bien.
C'est juste dément, franchement.
C'est vrai.
Goûter ce petit assaisonnement.
Et à la rigueur, on peut ajouter, Eric, un petit peu de. Si vous voulez mettre un petit trait d'huile de pépins de raisin, mon avis, ça peut le faire.
C'est un vrai régal. Et la texture du chou kale que vous avez légèrement blanchi ou
blanchi, oui, oui. Non, je l'ai blanchi, je me suis aperçue que la cuisson vapeur, je ne sais pas ce que vous en pensez, Manon, la cuisson vapeur, ça fait sortir un peu davantage l'amertume du chou. C'est
oui,
pas mal de blanchir,
puis,
en fait.
Ça change la couleur.
Oui, ça devient un peu marronasse.
De blanchir, on capture la couleur verte. Oui. Et puis ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà le blanchir et ensuite le bien le sécher et le faire revenir à la poêle avec un peu d'huile ou de beurre pour le faire croustiller.
Et là, ça aurait été un vrai chou sauté, comme dans le livre.
C'est délicieux.
On veut la vie de
Manon. C'est une belle assiette de partage, ça.
Ouais, que j'ai pas trop partagé.
Qu'on a fait tourner autour du plateau.
Et c'était l'ode au chou sauté chez Piquier de Areno Inoue.
Allez, on poursuit avec quelques coups de cœur gourmands. Laurent Delmas est totalement dans le pâté en ce 1er janvier 2023.
Non, je suis dans la salade, je me régale.
Alors, il y a des petits pâtés tout chauds qui circulent dans les assiettes. Nous invitons un autre élève de 3e, Ernest.
Bonjour.
D'où est-ce que tu viens, Ernest ?
Je viens de Épinay-sur-Seine, dans le 93.
Tu peux même donner le nom de ton collège ?
Jean Vigo.
Très bien. Alors, tu as une assiette sous ton micro, avec ce qui ressemble à des petits pâtés ?
Oui.
Tu goûtes pour nous et nous dire ce que tu en penses ?
Oui.
Tu peux y aller avec les doigts. Hein.
Et tu nous dis si c'est meilleur qu'à la cantine.
T'aimes bien ou pas ?
Ouais. Il y a un petit aspect un peu boisé. Il y a un peu des notes d'herbe. C'est bon.
Intéressant. Alors, solution des jeux avec un certain Laurent Delmas.
Eh ben, ça s'appelle un petit pâté de Nîmes.
Eh oui.
Eh oui, c'est une parce que à Nîmes, il n'y a pas que la brandade ou gardiane. Il y a aussi le petit pâté. C'est une pâte brisée qui contient une farce composée de porc et de veau. Ça date des années 1800, donc c'est pas d'hier. Daudet en était friand, mais à un point tel qu'il s'en faisait livrer à Paris pour ses copains Zola et Goncourt notamment. Ça se déguste comme on vient de le faire, tiède, mais surtout pas chaud. Donc vous les faites passer au four 8 à 10 minutes à 150, ça suffit amplement. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que Thierry Bosc vient d'être désigné par un jury champion du monde du petit pâté de Nîmes.
Ça, champion du monde, rien que ça.
Champion du monde, champion du monde au hall de Nîmes. Le jury était placé sous la direction de Michel Kayser, qui est le chef du restaurant nîmois Alexandre, 2 étoiles au Michelin quand même. Alors évidemment, je ne vous en dirai pas beaucoup, parce que Thierry Bosc garde, comme tous les Nîmois, jalousement secrète la recette. Néanmoins, il y a 70% de porc et 30% de veau. Pour le reste, c'est secret, et il améliore la recette d'année en année, parce que c'est une recette qu'il a eue de son papa, son père la tenant lui-même, je crois, de son grand-père. Enfin bref, c'est une histoire de famille. Alors néanmoins, il l'adapte aux saisons, parce qu'il est très sensible au local et aux saisons, et il paraît, moi je ne l'ai pas goûté hélas, que son petit pâté précédent qui était au cèpe, floraison des cèpes en Lozère étant extraordinaire cette année, ça a fait un tabac au Val de Nîmes. Et puis là, pour les fêtes, il y a une déclinaison, vous l'avez aussi dans vos assiettes, c'est juste 20% de foie gras, 3% de truffes, attention, de truffes du Gard, hein, parce qu'on ne dira jamais assez que le département du Gard est un département truffier, et pas n'importe laquelle. La mélano, la vraie bonne truffe, il y en a dans ces petits pâtés. Alors pour l'instant, les petits pâtés, ben, ils ne sont en vente qu'au hall de Nîmes, même dans l'allée centrale aux étals 41 et 79, s'il vous plaît, notez-le.
Demandez-le en Delmas.
mais au premier trimestre 2023, donc maintenant, dans quelques semaines, un système de vente par correspondance va être établi par Thierry Bosc et on pourra manger des petits pâtés dans toute la France par correspondance. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est vraiment, pour moi, je trouve un régal parce que c'est très bien fait. On sent une vraie préparation. La pâte est délicieuse.
La pâte est dingue.
La pâte est dingue. Et ce qu'il y a à l'intérieur est aussi délicieux.
Et puis voilà. Le calibre est super. On le croque en deux bouchées. Ouais, c'est amusant à manger aussi.
Bouchée apéritif ou entrée avec une salade.
Sachant qu'on est dans la collection de ces petits pâtés traditionnels qu'on trouve beaucoup dans le Languedoc.
Absolument.
Et dans le Sud-Ouest.
Comme celui de Pézenas, qui lui est à l'agneau et au citron confit, je vous le recommande également.
Il ne faut évidemment pas les confondre.
Absolument pas. Merci à Thierry Bosc.
Merci Laurent Delmas. Merci beaucoup Ernest.
Merci à vous. À bientôt.
Un coup de cœur liquide, est-ce possible pour accompagner ces petits pâtés de Nîmes apportés par Laurent Delmas? Ben ça, c'est le job de Dominique Hutin.
Eh oui, vous le savez, on a un auditoire de qualité qui est assez peu porté sur l'eau tiède. Et comme nous, il est en quête de vins à forte identité. Donc je vous propose une bonne dose de sensations fortes avec des vins hérités de magma en fusion qui sont nés sur des terroirs volcaniques. Alors par exemple, les Côtes d'Auvergne, les Pézenas de Languedoc. Laurent, vous venez de le citer à l'instant.
Mais bien sûr,
j'adore. Dans le Beaujolais, les Côtes de Brouilly, en Italie, les îles éoliennes. En Grèce, par exemple, Santorin, les vins de Hongrie, etc. etc. Alors ces vins de volcans, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Ils sont porteurs de marqueurs chimiques et organoleptiques. Et ce goût, il se traduit par des notes poivrées assez intenses, une forme de salinité, mais aussi de rondeur qui va atténuer leur acidité. Alors j'ai pu converser, bien sûr, avec le volcanologue Patrick Marcel et l'enseignant-chercheur Christian Coelho. Et leurs travaux vont alimenter une démarche vers un label de vin volcanique. Et ce label, il est porté par l'association Vinora, qui s'est réunie à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Vous connaissez Paul Bocuse à Lyon?
Tout petit peu.
C'est une jolie ville, vous devriez y aller.
Alors il y a Paul Bocuse, évidemment, près de Lyon, et puis il y a l'école Paul Bocuse à Écully.
Bravo, c'est exactement là, c'est Écully. Je vous ai apporté une petite bouteille qui a valeur de témoin. Alors c'est un Côte d'Auvergne, mais plutôt que le Gamay d'Auvergne, qui est l'habituel locataire des lieux, j'ai choisi un Pinot Noir pour son caractère un peu universel, de manière à ce que tout le monde autour de la table ait un référentiel commun. Je vous laisse le goûter puisqu'il est en train d'être versé. Et normalement, vous devriez trouver ces marqueurs de notes poivrées intenses, de salinité, de rondeur, forme de gourmandise.
Alors, à vous de jouer les amis.
Bah bon, en ce moment, c'est vraiment mes vins préférés. Hein. La Loire volcanique aujourd'hui, c'est une association qui a été créée et qui met en avant ces vins. Et je crois que sous le contrôle de Dominique, il y a eu le premier salon des vins volcaniques donc tout autour de la Méditerranée qui s'est tenu il y a à peu près un an. Et ça donne des vins avec une énergie absolument incroyable et avec des cépages qui ne sont pas que ceux auxquels on s'attend.
C'est vrai qu'il y a de l'énergie, il y a de la rondeur en
oui,
même temps.
Le paradoxe, c'est que c'est d'une fraîcheur incroyable. Volcanique, on ne s'attend pas forcément à de la fraîcheur. Donc c'est ça qui est étonnant.
Et beaucoup de poivre aussi.
C'est merveilleux.
Manon Fleury.
Un côté très poivré.
C'est bien résumé. Alors, l'Auvergne, c'est 80 volcans quand même. Donc il y a un sens. Par contre, puisqu'on parle de Loire volcanique, tout n'est pas volcanique en Auvergne. Loin s'en faut. Il faut vraiment s'attacher à ce label qui va bien définir ce que veut dire le volcan en termes géologiques. Et pour illustrer tout ça, vous trouverez notre carnet de vignes. Voilà. avec une centaine de vins qui vous viennent, eh ben je le redis, des Côtes d'Auvergne, du Languedoc, Pézenas, etc., etc.
Là, vous vous limitez quand même aux frontières de la France.
Cette fois-ci, oui, par caractère pratique, mais on peut aller jusqu'en Hongrie, jusqu'en Grèce, jusqu'en Italie. Mmh. Et ce qu'on a goûté, solution des jeux, c'est un Côte d'Auvergne, domaine de Miolane, et donc c'est leur Pinot Noir.
Mmh, c'est délicieux ça. Ouais. Pour quel budget?
Je ne sais plus.
C'est le bon budget, alors.
On laisse tomber.
C'est marqué sur tous les commentaires, les coordonnées et les prix de chacun des vins sont dans le carnet de vigne en ligne, à télécharger.
En avant, le changement, c'est la chronique de notre avocat gourmet, Éric Morin.
Sur France Inter, on va déguster.
Souvenez-vous, nous avions accueilli la nouvelle à un brin dubitatif face à ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Un confinement. Global, mondial, total. Inquiet pour certains, insouciant pour d'autres, les premiers jours étaient étonnamment ensoleillés. Nous étions confinés, mais nous pouvions ouvrir grand nos fenêtres et, pour les plus chanceux, profiter du jardin. Les jours, puis les semaines ont passé, le printemps nous provoquait, Pâques sonnait, on s'occupait, on se donnait des nouvelles par écran interposé, on zoomait, on parlait du monde d'après. Et puis il est arrivé. Non pas avec fracas, mais à bas bruit, comme un chat à pattes de velours. Nous pensions reprendre comme avant, avec quelques bonnes résolutions, comme un début d'année nouvelle, mais il s'était passé quelque chose, un je ne sais quoi, qui titillait, qui chatouillait, qui gratouillait. L'envie était toujours là, mais plus diffuse, assurément différente, comme si se retrouver face à soi-même ou entre proches avait fait germer quelque chose d'enfoui, une envie d'authenticité et son corollaire, une envie de changement. Alors, beaucoup ont décidé de changer. De changer de méthode, de changer de relation, de changer de travail. Et il faut le dire, cette impulsion, elle a pris naissance d'abord dans cette génération que les plus anciens moquent, un peu comme chaque époque l'a toujours connue. Cette génération qui ne voulait plus d'un monde qui court à sa perte. Le monde du travail a changé, et je crois qu'on n'a encore rien vu. Et le monde de la cuisine, le monde de la restauration et le monde du vin aussi. Et si ce goût de changement et de l'authentique était la réponse que les hommes et les femmes ont trouvé pour tenter une dernière sortie avant le terminus. Après la révolution MeToo et le confinement mondial, on constate plus de femmes, chefs, vigneronnes, sommelières, mises en avant, moins d'esbrouve dans l'assiette, plus de simplicité dans le service, plus de nature dans le verre, un peu moins de ça et un peu plus de ça, bref, comme un assaisonnement qu'on ne veut plus du tout imposer. Et comme on se désaccroche des étoiles, ou tout le moins on essaye, comme des classements et de tout le toutim, on remet à l'honneur le partage, la sincérité, la fête sans prise de tête et les bonnes relations au travail avec moins de coupures, ce système qui oblige à travailler du début du matin jusqu'à la fin de la nuit. Et on casse le cercle infernal de ce que l'on peut appeler la reproduction. Vous savez, c'est quand on reproduit les abus qu'on a soi-même subis plus jeune. Alors, si pour une fois l'humanité allait dans le bon sens, pourvu que ça dure, attention, c'est comme dire bonne année. C'est un souhait, pas une promesse.
Et cette chronique, Éric Morin, fait évidemment écho à vos choix personnels et professionnels, puisqu'on n'aura plus le droit de vous appeler désormais Maître Morin.
Et oui, depuis hier, 31 décembre, 23h59, je ne suis plus avocat, je ne serai plus l'avocat gourmet, mais je vais rester gourmet.
Voilà, et vous avez effectivement décidé de rendre votre robe d'avocat pour une nouvelle vie, mais on va vous appeler Éric Morin tout simplement, et ça nous va très bien.
Merci.
Merci beaucoup Éric. Elle cherche la castagne, mais tout en douceur. C'est la chronique de Manon Fleury.
Je voulais vous parler des fruits préférés des feux de cheminée et de la saison de Noël, de ce grand classique qu'on fait cuire une fois fendu sur les braises ardentes et qu'on déguste après avoir été longuement glacé, confisé. Eh bien oui, je voulais vous parler de la châtaigne.
Oh là
et
là,
c'est
on en
encore
a mangé,
mieux quand elle est française. En fait, ce que je voulais faire ce matin, c'est vous inviter à une redécouverte de ce fruit magique.
Avec plaisir.
Et donc, j'ai redécouvert la châtaigne grâce à un couple de producteurs que j'ai rencontrés récemment grâce à ma résidence au Perchoir Ménilmontant. Grâce à eux, j'ai redécouvert donc un fruit qui a un goût très sucré, qui a une chair très ferme et donc une densité assez unique. Sans doute que ce sont les goûts de la châtaigne d'antan, mais que moi je n'ai pas connu. J'ai jamais eu ces sensations-là en mangeant une châtaigne et surtout une châtaigne fraîche. Cette châtaigne, elle vient donc d'une ferme qui se situe en Ardèche, la micro-ferme du Caillou, située à 800 mètres d'altitude, où s'est installé ce jeune couple,
Océane et Grégoire. Grégoire, il était avant coursier à vélo à Paris et il a décidé de poser ses valises en Ardèche où il a rencontré sa femme Océane. Et ils se sont installés il y a 3 ans en reprenant une maison du village qui était une ferme autrefois. Et ils produisent dans leur ferme 2 variétés de châtaignes qui sont AOP, la combale et la merle. Je trouve que ce sont des noms très jolis, qui viennent d'arbres qui ont été greffés en 1600. Et ils ont récolté cette année leur 2e millésime. Comme vous pouvez l'imaginer, la châtaigne n'est pas une culture facile. Il y a beaucoup de difficultés, mais les principales difficultés, c'est les difficultés liées au réchauffement climatique. Avec un exemple criant cette année, la châtaigne déteste la chaleur, elle préfère le froid. La récolte de la châtaigne est très courte, elle dure environ 3 semaines. Et plus il fait froid, mieux on la conserve dans des sacs. Et plus il fait chaud, évidemment, plus elle va moisir rapidement. Et il est aussi difficile de cultiver la châtaigne, car il est difficile aujourd'hui de trouver des arbres pour faire grossir les exploitations, car elle se trouve souvent sur des parcelles qui sont abandonnées. Et personne ne sait vraiment retrouver les propriétaires de ces parcelles. Alors j'ai voulu vous présenter 2 recettes. À la fois pour se servir de la châtaigne fraîche, parce qu'en fait c'est assez rare de la trouver fraîche, là je vous en ai apporté quelques-unes aujourd'hui, et en fait moi-même j'ai demandé donc à Grégoire comment il faisait pour les traiter fraîches, parce que souvent on les trouve sous vide, ou elles sont déjà sous forme de crème ou sous forme de farine. Donc en fait, l'idée, j'ai oublié d'amener un petit couteau, un vrai couteau de cuisine, mais je vais le faire comme ça, même avec un petit couteau rond, vous voyez. J'ai défait la partie grise au-dessus de la châtaigne, et j'y suis allée avec la pointe de mon couteau, et j'arrive avec la pointe de mon couteau à éplucher la châtaigne assez facilement, finalement. C'est assez fastidieux, mais pas plus que écosser des petits pois ou éplucher des salsifis.
Il faut juste prendre un peu de temps en cuisine.
Ça peut se faire en famille. On pense à cette période de fête où c'est bon de
on
se rassembler
en famille,
en cuisine. Et donc là, c'est une recette toute simple. On va utiliser la châtaigne fraîche qui a été épluchée. Vous gardez la pellicule, parce qu'il y a une pellicule qui se trouve entre la peau et la chair de la châtaigne.
Et qui est un peu tannique, astringente.
Qui est un peu tannique, et en fait, on aurait tendance à vouloir l'enlever. Et moi, j'ai gardé. Et on va cuire ces châtaignes dans un fond d'eau, vraiment très simplement, accru. Et on va les cuire à frémissement pendant quelques minutes, pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, on va mixer ces châtaignes dans un blender avec un peu de sucre et on va obtenir une crème de châtaigne très onctueuse parce que il y a cette châtaigne fraîche en fait qui va apporter ce côté amidonné, ce côté aussi doucereux et on va mettre beaucoup moins de sucre que dans une crème de châtaigne qu'on connaît normalement. Là, j'ai déposé par-dessus quelques dés de poire et quelques dés de patates douces qui ont été pochées dans un sirop.
Ah, c'est une merveille. Voilà,
on a écrasé par le sucre, c'est comme ça. Souvent la confiture de marron, de châtaigne.
C'est un vrai goût de châtaigne, c'est très doux.
Ah oui.
Effectivement, le sucre l'emporte pas sur le fruit. On a vraiment ce goût de châtaigne authentique. Et puis après, j'ai fait une autre recette, parce que effectivement, on peut pas garder la châtaigne indéfiniment, à part si on la stérilise, qu'on la met en bocaux, ce que faisaient beaucoup nos grands-mères. Et donc, j'ai voulu proposer une recette à base de farine de châtaigne, parce que la ferme du Loucoudou propose aussi de la farine de châtaigne. Et donc, j'ai fait un moelleux à la farine de châtaigne, donc un moelleux sans gluten.
Qui porte bien son nom.
Sans gluten.
Ouais, sans gluten, avec simplement de la farine de châtaigne, de la poudre d'amande, du sucre glace, quelques zestes d'agrumes, parce que vous savez que j'aime ça. J'ai un peu du mal à m'empêcher d'en mettre l'hiver dans les gâteaux. Un peu de sucre semoule, des œufs et du beurre.
Quelle texture!
Le petit twist de la recette, c'est un sirop. On vient faire un sirop, donc avec un peu de sucre et de l'eau. On peut aussi mettre des zestes dans le sirop et on vient imbiber le gâteau à la sortie du four avec le sirop froid.
Quel régal!
Ça vaut largement les financiers.
Ah ouais, c'est même, on pourrait même trouver ça.
Ça va le côté gras du financier.
Mais on a à peu près les mêmes ingrédients, la poudre d'amande, du sucre, du beurre, voilà, on est sur les mêmes.
Bonne cantine, on va déguster.
Et les recettes de Manon Fleury sont évidemment comme toutes celles qu'elle a développées dans les émissions précédentes sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Un grand merci Manon, je renvoie nos auditeurs d'ailleurs à une émission entièrement consacrée à la châtaigne que nous avions diffusée en octobre 2020 avec le castanéiculteur bio d'Ardèche Michel Grange et Claude Brioude, le chef amoureux de la châtaigne à Mérac. On vous a mis le lien du podcast, évidemment, sur la page internet dont on va déguster. Et je rappelle, cher Manon, que vous êtes l'autrice d'un formidable livre, Céréales, un livre engagé, très inspiré autour de la cuisine, du blé, du petit épeautre, du riz, de la marante, de l'avoine. Nous avons fait une émission ensemble, on a mis là aussi le lien à disposition, c'était le 9 octobre dernier. Et on rappelle que ce livre, chez Flammarion, vous l'avez fait avec toute une équipée.
Oui, avec Camille Auger pour les textes, Alessandra Miletic pour les illustrations, Pauline Guablin et Lisanne Lecléache.
Céréales de Manon Fleury chez Flammarion. Je renouvelle mes vœux de chaleureuses et savoureuses années à vous toutes et tous. Bonne année les
bonne
amis,
année.
On va trinquer quand même.
Bonne année
aussi évidemment à nos auditeurs et nos auditrices. On trinque avec les vins hybridés, enfin, ou les alcools, vins...
Oui, hybridation des boissons, on peut le dire.
C'est ça, de Dominique Hutin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour cuisiner une épice universelle aux multiples bienfaits. La cannelle, avec notre monsieur épice Samir Ouriagli et la cuisinière américaine Carrie Solomon. Jean-Mata Christol et Zazie Tavitian seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Je vous dis à bientôt, toutes et tous.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
Bonne année, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim...